Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous allons maintenant à la rencontre de la Sainte Trinité. Augustin a écrit un grand traité de la Trinité, il n'est pas le premier à le faire, Saint Hilaire l'avait précédé, le père de l'Église, de grands penseurs, avait aussi essayé de dire quelque chose au sujet de Dieu comme Trinité. Augustin écrit un grand traité sur la Trinité, dans lequel il voit bien que nous ne pouvons pas, que notre intelligence ne peut pas pleinement connaître Dieu. Il voit bien donc toute l'infirmité de notre intelligence quand il s'agit de dire ce qu'est Dieu, de dire qui est Dieu, de dire la vie même de Dieu. Et il a à ce sujet une formule que certains connaissent, qui est « si tu comprends, ce n'est pas Dieu ». Si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Tu peux comprendre que 2 plus 2 sont 4, et là, quand tu as compris que 2 plus 2 sont 4, il ne reste rien à comprendre, c'est fini. Et dans 10 ans, tu comprendras la même chose, ni plus ni moins. En revanche, si tu lis un poème à l'âge de 10 ans, et que tu relis ce même poème à 40 ans, à 60 ans, à 80 ans, ce même poème n'aura pas pris une ride, n'aura pas changé d'une lettre, mais ce même poème, tu en auras une compréhension peut-être plus profonde, j'espère plus profonde, et en tout cas, les mots auront un sens, apparaîtront sous un jour nouveau, et une profondeur nouvelle apparaîtra. Et donc c'est en ce sens que, si tu comprends, ce n'est pas Dieu, ça veut dire que nous ne sommes pas devant Dieu comme devant une formule de mathématiques ou une addition, 2 plus 2 font 4. Nous sommes devant l'énigme et le mystère par excellence. Cependant, nous sommes capables de dire quelque chose de Dieu et nous esquissons un discours sur Dieu. Leibniz dira, nous griffonnons quelque chose. Le plus ardent désir de l'homme, c'est de connaître qui est Dieu et d'essayer de griffonner, d'esquisser ce que peut bien être la vie de Dieu. Il tient donc un discours, cet homme, sur son Dieu et il essaie de dire quelque chose de vrai à ce sujet en ayant toujours cette haute conscience du fait qu'il ne peut pas enfermer son Dieu, le Dieu vivant, dans une formule, dans une parole, dans un traité, etc. Donc il a conscience du fait qu'il peut dire quelque chose de vrai, mais qu'en même temps, il ne peut pas épuiser la vie même de Dieu, parce que la vie de Dieu est une surabondance pour nous inépuisable et qui échappe à notre prise. À partir de là, le point suivant que je voudrais aborder, c'est le fait des preuves de l'existence de Dieu. Ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup Augustin. La question qui l'intéresse, ce n'est pas celle de savoir si nous pouvons ou non prouver l'existence de Dieu. La question qui l'intéresse, et qui est en vérité plus profonde, c'est celle de savoir qui est Dieu. Et de tenir un discours sur Dieu, un discours sur Dieu qui est d'abord enraciné dans le discours à Dieu. Ce n'est que parce que je sais que Dieu est et qui il est en quelque façon que je Donc ce n'est que parce que je l'ai rencontré que je peux lui parler. Ce qui nous renvoie à l'idée de révélation. Je ne peux connaître autrui que si autrui se manifeste à moi d'une façon ou d'une autre, par des actes, par un silence, par des paroles, par une action quelconque. De même, nous ne pouvons connaître Dieu en vérité que si Dieu se manifeste à nous d'une façon ou d'une autre. Augustin reçoit de la tradition biblique l'idée de révélation, l'idée donc d'un Dieu qui vient à nous, et pour nous faire connaître qui il est, en vérité, j'y insiste, sans que pour autant nous puissions épuiser qui il est. Ce qui intéresse donc Augustin, ce n'est pas une démarche qui sera importante par la suite, à savoir celle de prouver qu'il y a un Dieu, mais ce qui l'intéresse, c'est de lire et de méditer et d'approfondir ce que nous pouvons connaître de Dieu parce que Dieu nous l'a fait connaître. Le thème constant, le thème majeur, donc, c'est la révélation. Autrement dit, plutôt que de spéculer sur ce que peut bien être Dieu et la vie de Dieu ou des dieux, tout seul, à partir des ressources de la raison humaine, la voie royale qui nous conduit à Dieu, c'est la voie que Dieu a empruntée pour venir à nous. C'est-à-dire que la meilleure chose à faire si nous voulons connaître Dieu, c'est de nous mettre à l'écoute. C'est la grande tradition juive qui nous l'enseigne, c'est la prière juive de l'homme juif quotidien, prière quotidienne, pardon, Shema Israël, écoute Israël. Et Augustin se met bel et bien à l'écoute de la parole de Dieu, parce que c'est seulement en écoutant ce que Dieu nous révèle de lui-même que nous pouvons savoir qui il est. Qui il est pour nous et qui nous sommes pour lui, si nous reprenons aussi le prélude des confessions. La grande question donc de Dieu pour Augustin, c'est la question de la révélation. Or, la révélation chrétienne contient quelque chose d'étonnant. C'est l'idée de la Trinité. L'idée de la Trinité signifie que Dieu est un, qu'il est l'unique, et cependant qu'il est en lui-même la vie de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit de sainteté. Augustin donc essaie de penser ce que peut bien être la vie de Dieu, qui est une seule et même essence, un seul et même Dieu, et en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le travail d'Augustin, dans lequel je n'entrerai pas davantage aujourd'hui, dans la Trinité, le conduit à découvrir que pour connaître cela, il nous faut ouvrir la Bible. Et en ouvrant la Bible, nous découvrons des traces de la Trinité et nous découvrons de quelle manière Dieu, qui est trinitaire, s'est révélé aux hommes. Donc nous n'avons pas le temps maintenant de faire cette lecture, je l'indique simplement, pour en venir à un autre point. Donc le premier point, j'y reviens, c'est l'idée que Dieu est Trinité, que Dieu, mais cela veut dire que Dieu est Père. Et là aussi, c'est un point essentiel de la tradition juive et de la tradition chrétienne, Dieu, confesser Dieu comme Père. Si Dieu est Père, et qu'il est Fils, et qu'il est Esprit Saint, Augustin voit bien que nous ne pouvons pas pénétrer plus avant dans le mystère de cette vie des trois qui sont un, et de l'un qui est trois. Alors, il découvre dans la philosophie des ressources, à savoir l'idée de triade qui est essentielle dans le platonisme, dans le néoplatonisme, mais en même temps, il voit bien la nouveauté absolue de la Trinité par rapport aux notions de triade qui sont présentes dans la philosophie. L'autre point important de l'idée de Dieu présente chez Augustin, qui est plus qu'une idée de Dieu, c'est le Dieu vivant lui-même en personne qu'il s'agit de rencontrer, c'est le nom, un des noms préférés peut-être d'Augustin à l'égard de Dieu. Ce nom en latin, c'est « id ipsum ». Alors là encore, nous rencontrons une difficulté de traduction. La plupart des traducteurs, quand ils rencontrent le nom que Dieu se donne et le nom qu'Augustin reprend pour parler à Dieu, la plupart des traducteurs traduisent ce petit mot latin « id ipsum » par « l'être ». Il y a tout un débat dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, mais cela veut dire que les penseurs modernes ou les traducteurs modernes projettent sur le texte d'Augustin des préoccupations postérieures. Augustin ne cherche pas ici à penser Dieu comme un être suprême, ce n'est pas du tout sa problématique, et parce que sa problématique n'est pas comment la raison humaine, à partir d'elle-même, peut essayer de dire Dieu, mais comment la raison humaine peut être à l'écoute d'un Dieu qui est vivant, qui est personnel, et qui se révèle à nous, et qui s'ouvre à nous pour nous faire connaître qui il est, en nous donnant son nom, et en agissant avec nous et pour nous. Le nom vivant de Dieu est par conséquent id ipsum. Alors, id ipsum, comment le traduire? On pourra le traduire tout simplement par le même lui-même. Dieu est celui qui parle en première personne, Exode 3.14, en latin, moi, enfin ego sum qui sum, moi je suis qui je suis. Pour Augustin, c'est là le nom éternel de Dieu auquel il adjoint l'autre nom qu'il trouve dans les psaumes notamment, dans la traduction latine des psaumes, c'est l'id ipsum. Donc ça veut dire à ce moment-là que Dieu apparaît à l'homme en troisième personne, comme le même lui-même. Quand un homme se tient devant Dieu, il se tient comme un je devant le toi, théoi, le toi divin, et en troisième personne, donc, Dieu lui apparaît comme le même lui-même. Mais si maintenant nous essayons de nous placer par la pensée du point de vue de Dieu, cela veut dire que Dieu est pour lui-même le même soi-même. Et nous retrouvons ici quelque chose de décisif qui parcourt toutes les confessions, à savoir la relation entre le je et le tu, ou entre un je, je, et un autre je, je. Dieu est l'id ipsum pour lui-même, donc Dieu est le soi-même, le même soi-même, et c'est en tant que soi et que soi-même qu'il est créateur et qu'il se tient en relation avec l'homme. L'idée de la Trinité, donc, c'est l'idée de celui qui est le même lui-même et qui est pour nous, devant nous, le même lui, le même toi-même.
Les penseurs chrétiens. Philippe Soile, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Nous sommes en présence d'une surprise. Il est courant de dire que Dieu est le tout autre. C'est un discours ambiant que tout le monde a entendu. Dieu est le tout autre. Si nous lisons Augustin, nous découvrons que ce n'est pas cela qu'il convient de dire de Dieu. Explicitement, Augustin montre que c'est nous qui sommes tout autres et que Dieu est l'id ipsum, que Dieu est le même lui-même, que Dieu est le même soi-même. Il le dit notamment au livre 13 des Confessions, au chapitre 11, paragraphe 12. C'est donc nous qui sommes autres que Dieu, et c'est nous qui sommes non seulement autres que Dieu, mais encore toujours autres que nous-mêmes. Dans cette inquiétude qui nous caractérise, ces changements et cette instabilité qui fait que nous errons, que nous cherchons qui nous sommes et que nous cherchons à être nous-mêmes. Sois toi-même, être soi-même, tel est sans doute le vœu de tout homme sur la terre, mais l'épreuve qui est la nôtre, c'est qu'il nous est extrêmement difficile d'être nous-mêmes, ne serait-ce déjà que parce qu'il nous faut savoir ce que signifie être soi-même et quel est ce soi-même dont il est question. Être soi-même, telle est la vie de Dieu. Dieu est le soi-même par excellence, le soi-même éternel. L'homme ici, donc, quand il cherche à être soi-même, cherche à retrouver la ressemblance avec Dieu qui le caractérise selon le thème selon lequel l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En vérité, donc, c'est Dieu qui est soi-même, le même soi-même dans l'éternité, et c'est l'homme qui diffère de Dieu. C'est l'homme qui est toujours autre que Dieu et toujours autre que lui-même, se débattant, inquiet, cherchant qui il est et aspirant à se connaître soi-même pour parvenir à être enfin soi-même. Voilà donc un premier point. La surprise, c'est que c'est nous qui sommes tout autre et c'est Dieu qui est le même. C'est Dieu qui est le même soi-même. Je reviens au texte des Confessions, chapitre 13, livre 11. C'est un chapitre assez bref et très important qui prépare le texte de la Trinité de saint Augustin. Nous voyons là Augustin posait la question, la Trinité toute puissante, qui la comprendra? Et qui ne parle d'elle, si toutefois c'est d'elle? Rare est l'âme qui, quand elle parle de la Trinité, sait de quoi elle parle. Et donc cela veut dire qu'il est possible de savoir de quoi nous parlons quand nous parlons de la Trinité, en corrigeant toujours, à savoir que aucun être humain, pas même Augustin, saint Hilaire ou saint Thomas d'Aquin, ne mourra en croyant avoir épuisé la surabondance de la Trinité. Augustin ajoute, nous discutons, nous nous battons, mais personne sans la paix ne voit cette vision. J'insisterai sur le « sans la paix », ce qui veut dire que nous sommes capables de disputes, nous sommes capables de conflits théologiques très importants et de conflits philosophiques aussi très importants, sur le mode du désaccord de philosophe à philosophe, de théologien à philosophe et de théologien à théologien. Mais justement, nous ne pouvons voir cette vision, formule étonnante d'Augustin, qu'à la condition d'être dans la paix. Ça veut dire ici que si nous voulons voir Dieu, il faut commencer par nous tenir dans la paix. Et nous tenir dans la paix, c'est nous tenir dans son amour. Et au lieu de chercher le conflit avec l'autre, le désaccord, chercher la vérité et l'accord en Dieu. D'abord, la Trinité toute puissante, qui la comprendra? Augustin montre bien que tel est le désir le plus ardent de l'homme, qui n'est pas seulement donc de se connaître soi-même, mais de connaître le Dieu qu'il a créé, avec lequel il est instamment et constamment en relation. Que fait Augustin pour nous faire comprendre cela? Eh bien, il nous tourne vers nous-mêmes. Et là, nous trouvons un des points les plus caractéristiques de son génie. C'est ce qu'il a nommé en latin « vestigium trinitatis ». En français, le vestige ou l'empreinte ou la marque de la Trinité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il découvre, c'est que si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et parce que Dieu est Trinité, alors l'homme est Trinité, en un sens. C'est-à-dire que, puisque l'homme est à l'image de Dieu, il doit y avoir en l'homme quelque chose qui ressemble à la Trinité. Et la grande découverte d'Augustin, c'est que l'âme humaine et l'homme tout entier est pleinement ternaire ou trinitaire. C'est un point capital qui sera réexploré plus tard par d'autres philosophes. C'est un point qui sera aussi longtemps méconnu, longtemps oublié. Mais c'est un point décisif dont il faut dire un mot, cela me paraît tout à fait important. Nous sommes tentés le plus souvent par des dualismes, par des oppositions qui font se confronter deux choses. Par exemple, la raison et les passions. Par exemple, la raison ou l'intelligence et la volonté. Et nous sommes donc facilement dualistes ou dans le deux. Augustin nous montre que si nous voulons comprendre l'âme humaine, il faut en venir au trois et dépasser le deux. Pour comprendre l'âme humaine, donc, il faut comprendre que la structure de l'âme humaine est non pas duelle, deux, mais ternaire, c'est le nombre trois. Il illustre par un exemple tout à fait important et magnifique, extrêmement difficile, mais que nous pouvons saisir. Il illustre donc en donnant un bel exemple de trois, trois quoi, trois rien, qui caractérise l'homme. Je lis le petit passage. « Je parle des trois que voici, être, connaître, vouloir. » Nous avons donc là trois verbes à l'infinitif, être, connaître et vouloir. Et nous découvrons que ces trois verbes sont vrais de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Eh bien, il est caractérisé par l'être, par le connaître et par le vouloir. Si nous conjuguons ces verbes à la première personne, nous découvrons ce que dit Augustin. Je lis ce qu'il écrit ici. « De fait, je suis et je connais et je veux. Je suis connaissant et voulant. Je connais que je suis et que je veux. Je veux être et connaître. » Pour comprendre l'homme, il faut le regarder comme être constitué de manière ternaire, de manière trinitaire. Et cela veut dire aussi que pour Augustin que puisque nous ne pouvons pas directement regarder Dieu pour comprendre la vie même de la Trinité, comprendre les trois personnes dans leur relation, nous pouvons regarder comme dans un miroir et nous pouvons regarder les trinités de l'âme. Et c'est donc ce qu'il fera dans le livre sur la Trinité. Il explorera les trinités de l'âme humaine pour nous faire mieux comprendre la Trinité qui est Dieu lui-même. Alors, je reviens à cette trinité de l'âme humaine, être, connaître et vouloir. Notre première erreur, c'est d'être simplement, d'en rester aux deux, et d'opposer deux à deux, deux notions. Nous voyons donc, la première correction consiste à introduire le nombre trois. Il y a trois dimensions dans l'âme humaine, trois éléments, trois aspects, trois côtés. Être, connaître et vouloir. La deuxième erreur consisterait à séparer cela. Comme si d'un côté il y avait mon « je suis », de l'autre côté mon « je sais », et un peu plus loin et ailleurs, et sans rapport avec le premier, mon « je veux ». Une des pensées les plus profondes d'Augustin est ici, et il faudra des siècles pour qu'elle soit redécouverte et explorée par d'autres philosophes. Ce que Augustin découvre, c'est l'articulation et la connexion intime des trois. Quand un homme dit « je suis », « je sais » et « je veux », savoir, être et vouloir ne sont pas trois puissances séparées, trois choses ou trois corps lointains les uns des autres, mais trois puissances qui sont intimement liées les unes avec les autres. Chacune est profondément liée à l'autre. Par exemple, si je regarde qui je suis, je vois que je suis celui qui sait. Donc mon savoir est fondé dans mon être. Ensuite, je vois que je suis celui qui veut. C'est la volonté. Mais si je regarde maintenant ma volonté, je vois que ma volonté est d'être. Et donc ma volonté a prise sur mon être. Et je vois que ma volonté veut connaître. Ma volonté a prise sur la connaissance. Si je regarde maintenant la connaissance, je vois que ma connaissance me permet de savoir que je suis, et ma connaissance me permet de savoir que je veux, et ce que je suis, et ce que je veux. Donc nous voyons que non seulement il faut introduire trois éléments, mais encore il faut les articuler, les mettre en relation, en comprenant que chacun a prise sur l'autre, et que chacun est profondément et intimement lié à l'autre. Augustin ajoute, de ces trois donc, à quel point il y a une vie indivisible et une vie une, une intelligence une et une essence une, voilà, qui est pour nous extrêmement difficile à comprendre. Et pourtant, c'est ce que nous sommes. Il n'y a pas en nous d'un côté l'être, de l'autre côté la volonté, de l'autre côté la connaissance. Notre âme est faite de ces trois puissances, qui sont bien trois, et qui sont pourtant intimement une seule et même vie, une seule et même essence. Et voilà donc comment, en explorant quelque chose d'essentiel à l'âme humaine, l'essence de l'âme humaine, singulière, Augustin nous permet de rentrer un peu mieux dans l'intelligence de la vie de Dieu. Ce qui veut dire que si nous voulons explorer un peu plus ce que peut être la vie de Dieu, il nous faut rentrer en nous-mêmes. C'est en rentrant en nous-mêmes que nous découvrons trois qui sont un, et un qui est déployé selon une triple modalité ou une triple trois dimensions. Être, savoir et vouloir. Tel est donc le mystère de l'âme humaine et le mystère de Dieu.